Imaginez un instant accepter de subir une intervention chirurgicale, genre atrocement douloureuse. Et ça, sans la moindre anesthésie moderne, bien sûr.
Aïe, ouais, rien que d'y penser, ça fait froid dans le dos.
C'est clair. Et tout ça dans un but ultra précis et honnêtement pour le moins inattendu. Le but, c'est de masquer délibérément une marque religieuse sur son propre corps.
Ah oui, on parle de l'Antiquité, là, la période maccabéenne, non?
Exactement. Et pourquoi faire une chose pareille? Bah, tout simplement pour pouvoir participer entièrement nu à des compétitions sportives dans les gymnases grecs.
Oui, pour s'intégrer, en fait.
Voilà, pour pas risquer de subir les moqueries et les huées d'une foule impitoyable. Enfin, je trouve que c'est un détail historique fascinant, mais surtout ça en dit long sur la pression culturelle, quoi.
Tout à fait.
Et sur les longueurs extrêmes auxquelles l'être humain est prêt à aller pour préserver les apparences extérieures. Quitte à sacrifier complètement son identité profonde.
C'est un excellent point de départ. Parce que cette obsession pour la façade, pour la respectabilité visible, au détriment de la réalité interne, eh ben, ça n'a absolument rien de nouveau.
Ouais, on n'a rien inventé.
Exactement. Et c'est précisément le cœur de notre exploration d'aujourd'hui. On va plonger dans une analyse vraiment pointue qui a été réalisée par le docteur Craig Kinner.
Sur les premiers chapitres de l'Épître aux Romains, c'est bien ça, hein?
Chapitres 2 et 3.
C'est ça. Mais attention, le but ici, c'est pas du tout de dispenser un cours de théologie abstraite, hein.
Ah non, je serai la première à décrocher. Ouais, moi aussi. L'idée, c'est de décortiquer la mécanique d'une argumentation rhétorique redoutable de l'Antiquité. Comment cet auteur s'y prend pour déconstruire, de manière quasi chirurgicale, la nature humaine, la supériorité morale et surtout notre immense hypocrisie.
Et la mission de cette plongée dans ces sources, c'est vraiment de montrer à quel point cette ingénierie rhétorique, qui a genre 2 millénaires, bah elle percute de plein fouet notre monde contemporain.
Ah, ça résonne énormément, ouais.
Grave, on vit dans une époque d'hyperconnexion, on est saturé de débats moraux sur les réseaux sociaux, où chaque camp est intimement convaincu de détenir la supériorité éthique.
Oui, on s'imagine que posséder la bonne info, ça suffit.
Exactement. On pense que connaître les règles ou afficher les bonnes valeurs dans sa bio, ça fait de nous des individus fondamentalement bons. Or, les notes du docteur Kinner démontrent que ce texte antique, bah, il pulvérise cette illusion.
Il la détruit complètement.
Mais, et c'est là quel génie! Pour détruire les certitudes d'un public aussi complaisant, bah, il faut une stratégie. On peut pas attaquer de front.
Non, surtout pas. Si on s'adresse à des personnes qui sont profondément convaincues de leur propre justice, une accusation directe, ça provoque juste un rejet immédiat.
On se braque direct.
Voilà. Du coup, l'auteur utilise une technique très sophistiquée qu'on appelle la diatribe.
La diatribe.
Ouais. C'était une méthode pédagogique et oratoire très courante dans le monde gréco-romain. Ça a été perfectionné par des philosophes stoïciens comme Épictète, par exemple.
D'accord.
Et l'idée maîtresse de la diatribe, contrairement à ce qu'on pourrait penser aujourd'hui, c'est pas d'insulter. C'est de mettre en scène un débat avec un interlocuteur imaginaire.
Ah, c'est super intelligent d'un point de vue psychologique. Parce qu'en créant un adversaire fictif, on évite la confrontation directe avec le public qui nous écoute.
Tout à fait.
Et en même temps, on peut anticiper et démolir méticuleusement les objections avant même qu'elles germent dans l'esprit des gens. L'orateur garde le contrôle absolu du tempo.
Et le piège se referme via un syllogisme implacable.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Comment il construit ce piège?
Eh bien, l'auteur commence par établir une prémisse majeure, une idée sur laquelle tout son auditoire ne peut qu'être d'accord. Genre, ceux qui commettent des actes immoraux méritent un jugement divin.
Ok, là le public acquiesce, ils se disent, ouais, c'est logique, on est du bon côté de la barrière.
Voilà, ils sont confortables. Ensuite, il introduit la prémisse mineure. Toi, l'interlocuteur imaginaire qui juge les autres si durement, en fait, tu commets secrètement ces mêmes actes.
Ouche.
Et la conclusion tombe comme un couperet. Tu n'échapperas donc pas au jugement. Le public, qui s'était installé tranquillement dans le rôle du juge, se retrouve d'un coup dans le box des accusés.
C'est fou, ça me fait penser à. C'est comme pointer quelqu'un du doigt en oubliant qu'il y a 3 autres doigts de notre propre main qui pointent vers nous-mêmes.
C'est exactement cette image.
Ouf! Pour prendre un exemple actuel, c'est le syndrome de l'influenceur moderne, tu sais, celui qui fait de grandes leçons de morale sur l'écologie à ses millions d'abonnés
Ah oui, je vois très bien.
et qui se fait épingler parce qu'il prend un jet privé pour un vol de 20 minutes. C'est cette déconnexion totale entre le discours moralisateur public et la réalité des actes en privé.
C'est un super parallèle. Et pour verrouiller l'idée que personne ne bénéficie d'un traitement de faveur face à ce tribunal, j'ai remarqué dans l'analyse de Kinner que l'auteur utilise une structure bien précise, le chiasme.
Le chiasme. C'est une symétrie en forme de miroir, c'est ça, genre A, B, C, B, A.
C'est tout à fait ça. Et il faut comprendre pourquoi cette structure était employée à l'époque. On est dans une culture majoritairement orale. Les textes, on les lisait à voix haute devant des foules.
Du coup, pas de retour en arrière possible comme sur une page écrite.
Voilà. L'oreille humaine avait besoin de repères structurels pour capter l'argument central. Le chiasme, ça servait de surligneur auditif, en gros.
Le cerveau retient naturellement la symétrie. Donc, si je reprends les notes, l'idée A au début, c'est l'affirmation que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.
Oui.
L'idée B, c'est la récompense, la gloire pour ceux qui font le bien. Ensuite, le point C, le sommet du truc, ça annonce la colère et la détresse pour la rébellion.
Exact.
Et là, on redescend. Donc, le B revient. On répète la gloire promise à ceux qui agissent bien. Et on atterrit de nouveau sur A, car le divin est d'une impartialité absolue. C'est blindé de tous les côtés.
La mécanique est parfaite. L'objectif de cette symétrie, c'est d'établir un principe d'équité qui est terrifiant, finalement. Que tu sois issu d'un peuple historiquement privilégié ou que tu sois un simple citoyen de l'Empire, le barème est le même. Les privilèges sont dissous.
Ok, mais attends. Cette notion d'impartialité absolue, ça m'amène à une contradiction que l'auteur a sûrement dû anticiper.
Puis à quelle ?
Il y a une asymétrie évidente dans l'histoire. Certains groupes avaient un code moral hyper détaillé, une loi écrite, des textes. D'autres peuples ont évolué sans aucun de ces manuels de référence. Si le tribunal est impartial, comment on peut juger avec le même barème celui qui a le manuel et celui qui en a jamais entendu parler ?
Ah, tu mets le doigt sur la faille logique que l'adversaire imaginaire tente d'exploiter, justement. Et c'est là que le docteur Kinner souligne un concept clé, le principe de la responsabilité proportionnelle à la révélation.
Ok, donc plus t'en sais, plus tu morfiles.
En gros, oui. Posséder la connaissance, c'est pas un bouclier, c'est un amplificateur. Les sources font écho au livre d'Amos, dans l'Antiquité, où il est dit à une nation spécifique « Je vous ai choisi parmi tous les peuples. C'est précisément pour ça que je vous demanderai des comptes plus sévères. »
Waouh, ok.
Et Kinner transpose ça à notre époque. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement très éduqué éthiquement ou religieusement portera une responsabilité infiniment plus lourde que celui qui n'a pas eu ce cadre.
Mais d'un point de vue purement utilitariste, c'est terrible, hein ? Si posséder la connaissance théorique aggrave notre cas, bah, la stratégie optimale, ce serait l'ignorance volontaire. Hein.
Ah, le fameux « si je sais pas, je suis innocent ».
Ouais. Moins on en sait, moins on est condamné. Il suffirait de fermer tous les livres d'éthique, de vivre dans une grotte, et on bénéficierait d'une indulgence totale.
Ce qui est fascinant ici, c'est que la déduction est ultra logique, mais le texte bloque cette issue de secours immédiatement. Il introduit l'idée de la loi naturelle.
La loi naturelle, c'est-à-dire ?
C'est un concept fondamental dans la philosophie gréco-romaine. L'auteur avance que l'ignorance totale de la morale, en fait, ça n'existe pas. L'esprit humain possède une boussole innée, une conscience capable de distinguer le bien du mal intuitivement, sans avoir besoin d'une loi écrite.
Ah donc, personne ne peut débarquer devant ce tribunal et plaider l'ignorance absolue. Le logiciel est préinstallé d'usine.
C'est exactement l'argument. Ceux qui ont transgressé sans le texte seront jugés par leur propre conscience, et ceux avec le texte seront jugés par le texte. Mais, et c'est la grande tragédie que soulèvent les sources, les deux partagent la même faille.
Laquelle ?
Elles peuvent formuler un diagnostic parfait, identifier ce qui est mal, mais elles sont toutes deux incapables de fournir le remède. Savoir qu'une action est mauvaise, bah, ça donne pas la force de pas la faire.
C'est le diagnostic sans la guérison. Et ça crée un terreau idéal pour le plus grand danger dont parle l'auteur, l'orgueil spirituel et intellectuel.
Absolument.
D'ailleurs, on voit l'orateur s'attaquer de front à cette complaisance. J'ai compté dans les notes, il y a 11 revendications de supériorité religieuse qui sont littéralement pulvérisées par 5 questions rhétoriques rapides. C'est un vrai passage à tabac verbal.
Avec l'usage de l'anaphore, cette répétition en début de phrase, ça crée un effet de pilonnage. Genre, toi qui te flattes d'enseigner les autres, tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas voler, tu dérobes.
Il laisse aucune chance à sa cible. Il arrache le masque. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette arrogance de l'expert qui maîtrise la théorie mais fait n'importe quoi en pratique, ça a des conséquences graves.
Et pas que pour lui-même.
Ouais, C'est l'équivalent du docteur en éthique des affaires qui écrit des best-sellers sur la transparence et qu'on retrouve 5 ans plus tard en prison parce qu'il a détourné la caisse de son entreprise. La théorie sans la pratique, c'est un désastre.
Et les sources mentionnent qu'à l'époque, cette hypocrisie, c'était pas qu'une hypothèse pour faire joli dans un discours. Ça a déclenché un vrai cataclysme à Rome sous l'empereur Tibère.
Ah oui, l'histoire du charlatan juif. Ah là là, raconte ça, c'est dingue.
Kilner relate un scandale majeur. En gros, un charlatan juif s'installe à Rome. Il se donne une aura de grande sainteté, genre grand maître spirituel. Et sous cette couverture, il infiltre l'aristocratie romaine.
L'arnaque classique du faubourou ?
Totalement. Il extorque de l'argent et des objets précieux à des riches femmes patriciennes en faisant passer ça pour des non-religieux.
Et j'imagine que dans la société romaine qui était hyper patriarcale, très méfiante envers tout ce qui venait de l'Orient, ça a dû passer moyennement bien.
C'était le cauchemar de l'Empire. Que des cultes étrangers manipulent les épouses des sénateurs, c'était vu comme une attaque contre l'État. Donc quand l'arnaque est découverte, Tibère réagit avec une brutalité folle.
Il fait quoi ?
Au lieu de juste punir le coupable, il ordonne l'expulsion massive de toute la communauté juive de Rome. Il envoie même des milliers de jeunes hommes faire le service militaire dans des provinces infestées par la malaria.
C'est horrible. L'escroquerie d'un seul gars, planqué derrière un vernis de vertu, a provoqué l'exil de milliers d'innocents. Ça donne un sens super sombre à la citation d'Ésaïe que l'auteur utilise. « À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations ».
Exactement. Quand l'hypocrisie éclate au grand jour, les gens condamnent pas juste l'hypocrite, ils condamnent tout le système de valeurs qu'ils prétendaient représenter.
Ce qui explique pourquoi le texte redéfinit complètement l'appartenance. Si les actes extérieurs sont si facilement manipulables, bah, ils valent rien.
D'où la métaphore de la circoncision du cœur.
Ah, voilà, ça nous ramène à l'histoire des gymnases grecs du début à tôt.
Exact. Le rite physique, c'était la frontière absolue. Mais l'argument ici, c'est que cette marque physique, c'est une coquille vide si l'intérieur est pourri. D'ailleurs, Kenner souligne un jeu de mots subtil avec le terme « Judas ».
Ah, ça m'a surpris ça. C'est quoi l'étymologie ?
Le nom « Judas » en hébreu, « Yehuda », ça dérive d'une racine qui veut dire « louange ». L'orateur joue là-dessus. Le vrai croyant, c'est pas celui qui cherche la louange des autres en exhibant des trucs extérieurs. C'est celui qui reçoit l'approbation silencieuse du divin grâce à une transformation invisible du cœur.
Ok, d'accord. Mais attends, si on pousse ça jusqu'au bout, on fonce dans un mur. Si suivre les règles ne garantit pas la vertu, et si avoir les textes sacrés aggrave notre cas quand on faute, bah, à quoi bon s'encombrer de tout ça ?
C'est vrai que ça donne envie de tout jeter.
L'adversaire fictif pourrait dire « Écoute, si on finit tous dans la même galère au jugement, toute votre histoire d'alliance et de prophète, c'est une perte de temps. »
C'est l'objection incontournable. Et la réponse de l'auteur, c'est de séparer la valeur de l'outil de l'usage catastrophique qu'on en fait. Avoir été les dépositaires des oracles, c'est un avantage énorme. C'est une clarté intellectuelle directe.
Mais l'échec humain n'invalide pas la pureté du texte.
Voilà. L'infidélité humaine n'annule pas la fidélité divine. Mais l'adversaire fictif, lui, il lâche pas l'affaire. Il tente un sophisme, mais d'une audace folle.
Ouais, l'argument du péchon pour que Dieu soit glorifié. En gros, si ma désobéissance permet à Dieu de montrer à quel point elle est miséricordieux en pardonnant, bah, je lui rends service, hein.
C'est la manipulation toxique poussée à l'extrême. Rationaliser sa propre trahison en disant que ça sert à un plus grand bien.
C'est du génie du mal, quoi.
Et l'auteur réagit comment ? Il balaie ça avec un mépris total. Il refuse même de débattre philosophiquement là-dessus. Pour clore le débat et prouver que personne n'est épargné par la corruption, il déploie une méthode rabbinique, le Gezer HaShava.
J'adore ces vieilles méthodes. Comment ça marche, le Gezer HaShava, ici ?
Le principe, c'est de relier plusieurs textes distincts grâce à des mots-clés communs. Ici, il veut prouver l'étendue du mal, donc il utilise l'anatomie humaine. Il compile des citations des psaumes et d'Ésaïe, et il fait une vraie autopsie morale.
Et le résultat est glaçant. Ça décrit la gorge comme un sépulcre, la langue spécialisée dans le mensonge, le venin sous les lèvres, les pieds qui courent verser le sang et les yeux. Totalement sans crainte ni respect. C'est un monstre de Frankenstein moral, en fait.
C'est ça. Le but, c'est de prouver que la rébellion a infecté chaque partie de notre être. La loi écrite, à ce stade, elle agit juste comme un acte d'accusation qui ferme la bouche de la défense.
En gros, c'est un miroir. Un miroir ultra précis dans une salle très éclairée. Tu te regardes et tu vois avec une clarté cruelle que tu es couvert de boue.
C'est indiscutable.
Mais le drame de ce miroir, c'est qu'il te donne aucun savon. Il te montre que t'es sale, mais il t'aide pas du tout à te nettoyer.
Si nous relions cela à une perspective plus large, c'est exactement la limite de tout code externe. Kinner compare ça à notre droit pénal moderne. Une loi civile, ça n'a jamais eu la capacité de transformer le cœur d'un criminel.
Ça sert juste de barrière pour limiter la casse.
Exactement. Ça diagnostique et ça punit, mais ça crée pas la vertu morale de l'intérieur.
Bon. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au final? On est reconnu coupable, le miroir peut pas nous laver, c'est quoi la porte de sortie? Les sources parlent d'une controverse grammaticale super pointue, un truc de génitif. Sérieusement?
Oui, c'est dingue, mais l'évolution de la pensée occidentale s'est jouée sur trois mots grecs. Pistis, Iesou, Christou. Les érudits ont débattu pendant des siècles, c'est un génitif subjectif ou objectif?
Et ça change quoi concrètement pour le commun des mortels? Pourquoi Luther ou Augustin se sont pris la tête là-dessus?
Parce que ça déplace tout le centre de gravité. Si c'est un génitif subjectif, on traduit par la foi de Christ. Donc on met l'accent sur sa propre fidélité à lui. Mais si on suit Kainer, Luther et Augustin, c'est un génitif objectif. La traduction devient « la foi en Christ ».
Ah, ce n'est plus l'humanité qui s'épuise à produire de la vertu par ses propres moyens, puisqu'on sait que c'est impossible. C'est placer sa confiance en une source externe. C'est remplacer l'effort par la confiance, en fait.
Exactement. Et pour illustrer pourquoi s'acharner sur le mérite personnel est voué à l'échec, Kepner cite une histoire géniale du Talmud, sur Rabbi Akiba.
L'un des plus grands sages de l'Antiquité, c'est ça?
Le modèle absolu de vertu. Eh bien, la légende raconte qu'un jour, Satan veut l'éprouver. Il prend l'apparence d'une femme d'une beauté incroyable et il grimpe tout en haut d'un grand palmier.
Satan en femme sur un palmier, ok, c'est hyper précis. Et le sage, il fait quoi?
Le grand rabbi, devant cette vision, il perd tout contrôle. Il fonce sur l'arbre et il commence à l'escalader frénétiquement pour attraper la femme. Et juste avant qu'il arrive au sommet, Satan reprend sa forme et lui lâche un truc genre « Si Dieu n'avait pas ordonné qu'on te respecte au ciel, je t'aurais jeté en pas pour te briser la nuque. »
Waouh, l'autodérision de la tradition rabbinique est incroyable. Leur plus grand érudit surpris en train de grimper à un arbre sous l'effet de ses pulsions.
Le but, c'est pas de l'humilier, mais de montrer que la vulnérabilité est universelle. Peu importe combien de textes tu connais par cœur, la chute n'est pas une personne.
Cela soulève une vraie question sur nos systèmes spirituels actuels. Selon ces sources, si suivre les règles ne marche pas, la nature du système importe peu au final.
Cela soulève une question importante en effet. Que ce soit le bouddhisme, l'islam, le judaïsme ou le christianisme vu comme un simple code moral, envisagé comme une échelle de mérite, ça rate toujours. Le grimpeur finit par glisser, comme Akiba.
Donc, la seule issue logique proposée par le texte antique, c'est que la justification soit un don immérité, une grâce reçue par la confiance.
Le texte te dépouille de toute revendication de mérite. À partir du moment où ta propre boussole morale te condamne, la seule posture intellectuelle honnête, c'est l'humilité pure.
Eh bien, ce voyage à travers la rhétorique antique, ça nous ramène violemment aujourd'hui, hein. Pour ceux d'entre nous qui aiment accumuler des connaissances, lire des trucs hyper pointus, le message est clair. Le savoir sans l'application, ça engendre que de l'arrogance. Mais j'aimerais qu'on se quitte sur une réflexion qui prolonge cette idée de la loi naturelle.
Je t'écoute.
Si on a vraiment cette conscience universelle, cette boussole innée préinstallée dans notre esprit, est-ce que notre époque d'hyperconnexion numérique, avec ses débats constants, est en train d'étouffer cette voie intuitive? Ou alors, et je trouve ça encore plus inquiétant, est-ce que cette surinformation révèle simplement à quel point on est devenu super créatif pour inventer des excuses intellectuelles et ignorer délibérément ce que cette boussole nous indique?
C'est vrai qu'on est très doué pour se trouver des excuses.
Ouais. Il semblerait que le miroir de l'Antiquité n'ait pas fini d'exposer nos petits paradoxes. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour décortiquer d'autres sources.